RMC.
Forcément qu'il y aura des priorités, mais ça veut pas dire que la dernière des priorités sera une priorité aussi.
Le Super Football Show.
Vous comprenez ce que je veux dire?
Je vous entends parler, je vous entends écrire.
C'est intéressant d'avoir plusieurs arcs à son flèche, donc c'est bien.
Jusqu'à minuit, c'est l'After Foot, Nicolas Villas.
Avec vous, soyez les bienvenus dans l'after, soyez les bienvenus sur le hashtag RMC Live pour réagir en direct. On vous attend au 32-16 avec ce soir Pierre Ducrot. Bonsoir Pierre.
Bonsoir Nicolas Villas, bonsoir Daniel Riolo.
Bonsoir Daniel Riolo.
Salut les amis.
Daniel qui enchaînera, vous le savez, à partir de minuit sur le RMC Poker Show avec un beau programme et un beau plateau ce soir.
Le RMC Poker Show, c'est parfait, c'est toujours parfait.
Comme
dans 3 jours démarre, parce qu'il y a la Coupe du Monde du foot, je veux bien. Hein.
Ouais,
dans 3 jours, WSOP Las Vegas, hein, championnat du monde. 78 tournois quand même. Pierre, un jour, il faudra quand même qu'on aille à Vegas.
Bah, on a qu'à y aller dans 3 jours.
Moi, je peux pas venir, moi.
Non, là. Toi, tu sais pas jouer du tout, Pierre. Il maîtrise un peu quand même.
Oh, tu maîtrises, toi.
Un peu.
Je joue avec son belge,
mais j'ai arrêté parce que je pouvais pas tout faire, mais. Ah, bah, attends.
Enfin, moi, je veux bien aller voir, hein, juste comme ça. Ça
doit non.
Ah, oui, c'est assez fou.
Non, Daniel, non.
C'est sûr.
Non. Soit il vient, il joue.
Bah, faut m'apprendre.
Soit il vient pas.
Moi, je veux bien. Je demande pas mieux que d'apprendre. Quelques petits résultats. On était il y a quelques instants avec Nicolas Belvito, l'attaquant de Grenoble. Grenoble qui sera en Ligue 2 la saison prochaine et qui a arraché nul 0-0 à Bourg. Ils avaient gagné leur barrage pour la montée 2-1 au match aller. Et puis, ça a repris à Toulouse entre le TFC et l'ACA. On rappelle qu'au match aller, l'ACA s'était incliné 3-0 à domicile. Wilfried Templier est toujours avec nous. Wilfried, c'en est où en ce début de seconde période?
Wilfried Templier est puni au Stadium 0-0.
Bon, ça te suffit, Wilfried, ça te suffit.
T'as la pluie, mais pas les buts, quoi.
Oui, mais bon. Ils ont pris une bonne bronca à la mi-temps quand même, hein, parce que le public attend autre chose de ce match retour, de ce dernier match des Toulousains. Mais bon, il est à l'image de leur saison sous la pluie.
Oui.
0-0. Si ça reste, on le disait en début hein, de match, si ça reste en Ligue 1, ce sera déjà pas mal.
Si t'as deux buts, Wilfried, et que c'est pour Ajaccio, tu verras, tu vas trembler.
Oui, attention là, ça va pas être pareil.
Mieux que ça reste à 0-0.
Donc pour l'instant, Toulouse se maintient en Ligue 1.
C'est une question?
Ouais, non, c'est une question.
Oui. Bête, mais c'est une question.
Oui, c'est une question. Ouais, trois buts d'avance. Okay.
Merci voilà, Wilfried. Merci Wilfried. Tiens, petit résultat également du tournoi de Toulon. Vous savez que ça a débuté ce week-end. L'équipe de France qui s'est imposée 4-1 face à la Corée du Sud avec un doublé de Jordan Tell notamment et qui jouera ensuite face à l'Écosse et face
rien
au Togo.
Rien de tel pour commencer un tournoi.
Et bien tenu qu'une victoire. Hier, il y avait la. Non.
Rien de tel pour commencer un doublé de tel.
Hier, finale de Ligue des Champions, le Real qui s'est imposé 3-1 face à Liverpool. Benzema, doublé de Bale, un but de Mané pour les Reds. 13e Ligue des Champions pour le Real Madrid. 3e Ligue des Champions d'affilée pour Zidane. Du jamais vu dans l'histoire de la compétition. Fred Hermel est un homme heureux et Fred Hermel est un homme heureux aussi parce qu'il est dans l'after ce soir. Rebonsoir, Fredo.
Hola, chicos.
Salut, Fred.
Comment il va,
Ça
Fredo
va, les amis? Ben, il va bien. Le jasmin dans mon patio commence à être en fleurs, donc c'est le bonheur, quoi.
Il fait beau à Madrid, là, parce que...
Non, mais c'était pas terrible dernièrement, il y a eu des grêles et tout ça, mais là, aujourd'hui, il a fait beau, ouais. Il a fait suffisamment beau pour qu'il y ait des centaines de milliers de personnes dans les rues de Madrid.
Oui, c'est ce que j'allais dire.
Elles sont comment, les festivités, les images, là, d'ailleurs?
Ouais, mais c'est énorme. Bah, ici, c'est un truc de malade, mais... C'est-à-dire que quand ça se passe dans d'autres pays, on fait toujours des trucs, c'est génial, wonderful. Mais là, c'est un truc de malade, quoi. Tu vois, il y a 80 000 personnes dans le stade, là, pour le show, son et lumière. Où il y a aussi des basketteurs, parce qu'il y a, une semaine, ils étaient champions d'Europe, hein, le Real Madrid basket. Ils ont gagné l'Euroleague et donc ils sont à l'honneur là aussi ce soir. Et
c'est vrai.
Ouais, il y avait des centaines de milliers de personnes de partout dans les rues. Et puis là, il y a 80 000 dans le stade pour la fête, quoi. Donc ils savent bien faire ça. Bah, faut dire qu'ils ont l'habitude aussi. Hein, donc les petits détails, par exemple, de l'an dernier, de l'année d'avant, ils ont pu les régler, quoi. Et quand il y a des petits dysfonctionnements, tu vois.
Tiens, l'année prochaine, on ne fait pas changer, ça, les gars.
Ils ont un an pour anticiper à chaque fois.
Pour ça, si on mettait des guirlandes violettes l'année prochaine, ouais, c'est pas mal, ouais. Pour que non. Tiens, tu tombes bien, mon Fredo, c'est pour ça que t'es là d'ailleurs.
Bah oui,
tu tombes bien.
Bah, c'est pas que je tombe pas par hasard non plus.
Non, c'est vrai, c'est pas faux, c'est pas pour rien qu'on t'a appelé. Les avis tranchés de Daniel et de Pierre vont porter sur le Real Madrid justement, et on va commencer par l'avis tranché de Pierre Ducrot.
Pour les gars de la génération Pierre Ducrot, ça sent la banquette arrière, ça.
Ouais, mais enfin, moi j'ai pas connu les banquettes en arrière avec Scorpion, quoi.
Eh non.
T'as pas connu?
Ah non.
Ah ouais?
Non, ouais, non, quand même, je suis pas de cette génération.
C'est intergénérationnel, ça.
Pas pour la banquette.
Je suis plus jeune que toi, j'ai connu.
Ouais, mais la banquette arrière, c'est des musiques de ta génération,
c'est
en général.
Vrai. C'est vrai. Alors, Pierre, ton avis tranché concerne...
C'est gênant comme début d'avis tranché.
Il concerne le Real Madrid.
Je suis content de commencer parce que comme Daniel a pas fini le sien, ça lui permet de...
ça lui laisse le temps de finir. C'est vrai qu'on dirait un mec qui est en train de se faire gauler, il fait ses devoirs. Daniel, depuis tout à l'heure, il est comme, il fait la caméra est pas là, ok, vas-y. Ok, ok, c'est bon.
Absolument. Non, il a juste là, il a juste. C'est les derniers détails, c'est les derniers détails.
Absolument pas. C'est là, c'est à quel point les images parfois peuvent être trompeuses. Absolument pas, puisque
je fais ma liste de courses.
Mais non, parce que je.
Tu l'as dans la tête.
Mais non, parce que je l'ai écrit aujourd'hui.
Ah bah oui.
Il était
vrai.
Disponible
oui,
en plus, sur le site.
Ah, il bosse
oui,
c'est vrai. Il y avait un sur le site.
Fait du copier-coller.
C'est vrai.
Donc,
tu fais quoi du coup?
Celui de demain.
Ça, mais le style écrit, le style parlé, ce n'est pas la même chose.
Ah, tu parles de ta super chronique du jour?
Ouais.
Brillant. Bah ce sera tout à l'heure. Bah tiens, bouge pas, ne spoilons pas.
Attends,
ne spoilons pas. D'abord ton avis tranché qui concerne aussi un Madrilène. Ça n'est pas Zizou, ça ce sera tout à l'heure pour Daniel.
Alors vas-y, ouais.
Et concerne Sergio Ramos.
Pas que, ça concerne le Real et ça concerne effectivement Ramos et tout ce qui a pu être dit. On a déjà lu et entendu beaucoup de choses alors que le match était que hier soir, parce que ça, bien sûr, ça a réagi à chaud partout et un peu plus avec un peu plus de recul parfois aussi ailleurs. On a à peu près tout entendu sur effectivement la victoire du Real, le geste de Ramos, l'arbitrage à chaque fois quand c'est le Real, etc. Et moi, je me suis posé un tout petit peu, j'ai réfléchi pour répondre à une question. Est-ce que cette année, voilà, en essayant d'être objectif, le Real était vraiment la plus forte équipe d'Europe? Et moi, je me suis, après réflexion et après avoir fait mon avis tranché, je dis oui, voilà. Et si j'ai choisi, je sais pas le titre, parce que là, je le vois pas, mais j'ai pris un petit parallèle avec pour comparer le Real à une armée dans mon titre.
Le Real est une armée, Sergio Ramos, son meilleur soldat.
Voilà, voilà. Et c'est
titre,
ça a été bien fait, Jérôme. Voilà, Jérôme a bien suivi les consignes, merci Jérôme. Pourquoi le Real me fait penser à ça? Déjà, il y a un chef des armées, c'est clair et net pour tout le monde, c'est Zidane. Voilà, il a fait des choix toute la saison, il en a encore fait hier soir, qui ont eu une influence. Alors, inspiration géniale, coup de chance pour d'autres, compétences. On s'en tape à la limite. Le truc c'est que ça marche à chaque fois.
Le résultat est là.
Voilà, le résultat est là. C'est lui qui dit comment on va au combat, comment on va faire la stratégie, mais pas que. C'est lui qui tient tout le vestiaire, qui tient toute l'armée, et il l'a très bien fait depuis maintenant 3 ans. Donc c'est le chef des armées. Déjà on a lui. Dans toutes les armées il faut un stratège. Pour moi le stratège c'est Modric. Alors je pourrais y associer aussi ses compères du milieu,
ouais, Toni Kroos.
Voilà, Kroos et même Casemiro, ouais. Parce que c'est pas que un mec qui a de la bataille, c'est un mec qui est très très intelligent, et puis de toute manière ça fait partie un peu de tout ça. Ils ont souvent cette saison, mais encore plus hier, je trouve, marché sur leur adversaire au milieu de terrain avec intelligence, avec caractère, avec une débauche d'énergie, avec beaucoup de technique. Qu'est-ce que c'était beau hier de voir Modric quand même. Pour moi, c'est le meilleur Barcelonais, Madrilène, pardon.
C'est pareil.
Hier, pas tout à fait. mentalement, moi, il y a un truc qui m'a surpris. Je sais pas si vous l'avez en tête cette image. C'est à la 91, 92e minute, donc à 3-1, le Real est champion d'Europe. Ça y est, c'est fini. Il y a Casemiro qui va au contre. Au plein milieu du terrain, hein. Il est pas dans sa surface en train de défendre son but ou ailleurs, il est juste au milieu du terrain, et la balle sort en touche, et il se retourne vers l'arbitre, mais avec de la rage pour dire la touche elle est à moi, mais comme s'il fallait qu'il récupère le ballon parce qu'il avait plus que 10 secondes pour aller marquer pour être champion d'Europe. Pour moi c'est tout un symbole.
C'est un voilà. compétiteur. Quoi.
C'est un compétiteur et le mec c'est de la première à la dernière.
Ne tape pas sur la table comme ça.
Laisse-moi tranquille. Et puis il y a le soldat dont on parlait dans le titre,
Ramos,
qui quand ce milieu de terrain, quand ces soldats à côté de lui souffrent un peu et où c'est un peu plus pénible pour eux, la première demi-heure contre Liverpool, en plus de savoir bien combattre tactiquement et techniquement, parce que c'est un vrai bon joueur, on est à peu près tous d'accord là-dessus, c'est même plus qu'un vrai bon joueur, c'est un très très bon joueur, mais il y en a beaucoup qui l'aiment pas parce que c'est la sale gueule, c'est la sale gueule qu'il te faut finalement, parce qu'il est tricheur, parce qu'il est vicieux. Mais parce qu'il sait très bien le faire, ça, et c'est la sale gueule qu'il faut pour gagner, tout simplement. Et qu'il y en a qui supportent beaucoup moins ces sales gueules quand ils sont, moi le premier d'ailleurs, quand ils sont dans une équipe que tu supportes pas ou que tu n'aimes pas, mais qui par contre adoreraient l'avoir avec eux. J'entends plein de choses, moi, sur Ramos ici en France. Et quand j'écoute plein de critiques sur le Paris Saint-Germain, qui est à peu près l'équipe qui représente la France au niveau de la Ligue des Champions en ce moment, la critique qui revient toujours, et à juste titre, c'est on manque de caractère. Quand on arrive à un certain niveau de compétition, ça manque de caractère, on est tous d'accord là-dessus. Faut pas cracher sur ce genre de joueur alors, parce que ce genre de joueur c'est lui qui te donne le caractère dans cette équipe. Et Ramos hier, on est d'accord avec le geste qu'il fait sur Salah ou pas, on aime pas. Il est super utile son geste, et lui il le sait. Quand il y va, alors il sait pas qu'il va lui péter l'épaule et qu'il va sortir 10 minutes après. Mais il y va pour lui faire mal. Il y va une première fois pour lui dire, moi, le duel que je dois gagner ce soir, c'est avec toi, et je vais le gagner. Et comme ça, mes potes à côté, ils vont être un peu plus tranquilles pour jouer. Tout ça fait que pour moi, le Real Madrid, qui a une armée qui a eu du mal à gagner quelques guerres au début de saison, reste l'armée la plus forte d'Europe, parce que quand il a fallu gagner les vraies batailles, les batailles importantes, elles se sont réunies autour de ça,
Et elle était invincible, tout simplement, jusqu'au bout.
Tiens, juste une petite parenthèse pour donner des nouvelles quand même de Mo Salah. Sachez qu'il a tweeté il y a quelques minutes. Il est « Je suis un combattant », a-t-il déclaré. Et il se dit confiant quant à sa participation à la Coupe du Monde. La Fédé égyptienne avait communiqué dans la nuit également en disant qu'elle était confiante. Il y a eu un tweet également de Sergio Ramos aujourd'hui. Il s'exprimait sur les réseaux sociaux lui aussi. « Le football est capable de te montrer le côté le plus doux, mais aussi le plus amer. Nous sommes avant tout collègues. Pro rétablissement Salah, le futur t'attend. » Voilà ce qu'a déclaré Sergio Ramos. Bon, forcément, il y a eu beaucoup d'insultes suivi derrière concernant l'Espagnol. En tout cas, voici l'avis tranché donc de Pierre. Daniel, ça rejoint pas mal de choses hein, de ce qu'on a pu dire hier aussi hein, après cette finale.
Oui, je suis d'accord. Bon, s'il faut s'arrêter sur le capitaine de cette équipe, le fantastique capitaine de cette équipe, je veux bien le faire. Moi, j'ai trouvé malgré tout intéressant ce qui est dit aujourd'hui. Moi, j'aime entendre qu'il ne plaît pas. Ça me dérange pas.
Oui, parce qu'il représente pas tout ce qui est parfait dans du football.
Ça me dérange pas. Par exemple, c'est un débat que je pourrais avoir longtemps, parce que j'en ai déjà parlé avec lui, avec un type que j'aime beaucoup, qui est Didier Roustan. Moi, je dis toujours qu'on est tous dans notre amour du foot
différent.
On est tous avec nous-mêmes régulièrement face à des incohérences et des contradictions. Lui, par exemple, c'est de détester ça.
Ouais.
Ou de détester certains joueurs italiens de l'époque qu'il n'aimait pas, et à côté de trouver génial Maradona. Je pense que c'est sa contradiction.
Alors que ça représente effectivement quelque chose.
On en a tous, ou les Argentins qui entouraient, qui étaient les porte-flingues de Maradona. Moi, j'aime bien ce genre de débat. Ça me dérange pas. Moi, j'aime qu'on admette que c'est comment je dis, c'est une garce. J'allais dire c'est une salope, mais c'est un peu plus vulgaire.
Ouais, garce.
Mais moi, j'aime qu'on admette qu'il l'est, et qu'après tout, bah, c'est l'histoire du foot, parce que moi, j'ai pas mémoire de grande équipe qui a pas eu de mec comme ça. J'ai beau chercher, c'est peut-être...
Mais le parallèle avec le PSG, il est intéressant, hein, de Pierre.
C'est que le PSG... Thiago Silva à Barcelone, Taramos, tu prends pas 6-1.
Ah bien sûr, ouais. Évidemment. À la limite, ce parallèle-là, il est trop évident. Ouais, je préfère les parallèles historiques. En plus, c'est pas un truc qui est culturel. Parce que je pense que dans tous les pays, c'est pas genre parce qu'il y a très longtemps, il y a eu le cliché tout con de dire les Italiens.
Pour moi, il y en a dans tous les pays.
Mais
dans tous les pays,
toutes les ligues
bien sûr,
qui représentent un peu ça.
Voilà. Et même, je vais te dire, même au Brésil, des mecs comme Aldair, un truc dans l'équipe de Brésil qui gagnait. Ouais, mais il était pas en équipe nationale. Moi, je parle d'équipe de. Ouais. Si t'avais pas
Ricardo
était pas à tendre. Dunga est un clébard. Et peut-être que c'est ce qui manque au Brésil en 82 ou en 86. Une équipe. Non, phénoménal.
Ouais, quand t'as pas au moins un mec, voire deux comme ça, c'est compliqué.
C'est compliqué d'aller au bout. Même la grande équipe des Pays-Bas avait des joueurs qui étaient assez durs.
Ouais, bien sûr.
À la limite, peut-être pas assez face aux Allemands.
La Grèce en 2004, c'est une équipe de garce. Hein.
Oui. Après, au Portugal,
les Jorge Costa, les Couteaux, les Paulinho Santos, les Bento,
bien sûr.
Pas forcément au moment où ils ont gagné.
C'est la plus belle génération.
Bien sûr. Mais on peut être partout, en Angleterre, en Allemagne, aux Pays-Bas.
Il y a
ce genre de mec-là. Avec le temps, ça diminue parce que les arbitres sont plus sévères, les caméras sont plus présentes, les cartons
sont... C'est là où il faut être très très malin et très très vicieux, effectivement.
Donc, à la limite, il est presque, lui, un peu anachronique. Parce qu'on en voit moins des mecs comme ça. Même si le Barça a toujours été très grand dans son style fantastique quand ils avaient un fort Busquets. Qui était capable, lui, de régler 2-3 comptes en douce aussi. Et de faire...
Et piquer aussi. Non, mais encore plus Busquets.
Encore plus
parce que Busquets, ça se voyait pas.
Exactement.
Parce que Piqué, c'était trop évident.
Voilà. Donc, moi, ça me gêne pas. Je veux juste, hier, quand je vois le match, ouais, je peux pas m'empêcher de penser, putain, mais quel enculé. C'est terrible. Mais en même temps, je veux dire, comme je dis que tout le monde a eu ça, on fera chacun le tour, tous autant qu'on est devant la télé, à la radio, nous ici, des équipes qu'on a aimées. Et dans toutes les équipes qu'on a aimées, on avait un mec comme ça. Et quand il était chez nous, il nous gênait pas.
Ah non, mais non plus. Mais c'est pire que ça. C'est qu'on l'aime quand il est avec nous.
Il nous gênait pas. Tout le monde sait, j'ai de la famille qui est très Juve. Quand ils se font deux fois de suite plantés par le Real, ils s'énervent et les arbitres tout. Je dis les gars, vous êtes vraiment sûr que vous avez envie de vous plaindre? Mais vous vous souvenez de l'époque Ciro Ferrara?
C'est qui la garce? C'est qui la garce en 98?
Hein?
La garce en 98 en équipe de France?
Ah, t'as des joueurs malins. T'as des joueurs malins.
T'as des joueurs malins. T'as peut-être pas une garce officielle.
Ouais, peut-être pas autant qu'un Ramos, mais tu sais qu'un Deschamps, tu sais qu'un Makelele.
Makelele en 98, il est pas là, Pierre.
Ah oui, non, pas 98.
Non, mais c'est pas dans les salons de Makelele.
Non, mais il y a des joueurs malins. Par rapport à ça. Un Deschamps était capable de, dans le terrain, de te faire des petits coups de pute. Non,
mais ce qui se passait au Real, par exemple, c'est que Zidane, par exemple, il s'en est pris, la première année, il prenait des coups, et il savait, et à chaque fois qu'il répondait, il se prenait un jeune, il savait pas le faire. Et Makelele, à un moment, on lui a dit, écoute, t'inquiète pas, je m'en occupe. Parce que moi, ça se voit pas. Et c'est Makelele qui mettait les coups et qui prenait jamais de carton.
Ouais, je me suis trompé en 98, mais effectivement, il incarne ça.
La plus grosse garce que t'as croisée sur
le terrain. On peut y mettre aussi un Thuram aussi derrière, qui était très, très dur.
Non, mais il y avait des mecs qui étaient durs sur l'heure, qui avaient beaucoup de caractère. Après, t'es pas obligé, ça peut pas, ça
veut,
après, ça veut pas forcément dire aller mettre des coups. Ça peut être aussi l'expression très forte de ton caractère. Et cette équipe, elle était pleine de très forts caractères.
Après, à 99% du temps, ces mecs-là, à un moment donné, ils mettent les coups.
Oui. Pierre, toi, t'en as croisé, toi?
Peut-être pas dans le même style, mais tu veux que je te dise la contradiction dont parle Daniel. Moi, en tant que joueur, je l'ai vécu. Quand tu joues au Paris Saint-Germain contre Fabrizio Ravanelli, qui tombe sans arrêt, qui obtient ce penalty contre Rabé Sanratana dans la surface, t'as envie. Moi, j'ai juste envie de le tuer ce soir-là.
Bon, bien sûr.
Et bah, 2 ans après, quand je me retrouve à Derby County et que des fois il t'obtient des pénalties un peu comme ça, ou que dans le jeu il t'obtient des coups francs importants comme ça, bah putain, t'es le premier content, quoi.
Mais oui,
t'es le premier soulagé parce que tu te dis, oh putain, on a un bon coup franc, merci, t'aurais dit, on va le jouer. Bah voilà, c'est la contradiction. Quand il est contre toi, tu le détestes, quand il est avec toi, tu l'aimes.
Après, moi je veux bien qu'il y ait des mecs qui aiment pas du tout ça, qui aiment pas je sais pas, ce qu'a pu faire l'Atletico pendant pas mal de temps. Moi je...
Ouais, mais c'est... Enfin, aujourd'hui pour gagner, c'est pas...
Mais ça me paraît un peu utopiste
maintenant de vouloir gagner sans.
Non, mais moi je défends toujours les belles équipes, les machins, mais l'histoire du foot montre que c'est, il y a pas que ça, quoi.
Non, mais surtout qu'aujourd'hui les joueurs sont surentraînés, les joueurs, le niveau physique général est beaucoup plus élevé. Les mecs sont beaucoup plus athlétiques qu'il y a 20 ans.
Oui, mais sauf qu'à 20 ans, tu pouvais largement filer des savates sans que ça passe plus, quoi.
Ouais. Bah, ça passait mieux. Ils avaient quand même des trucs à l'époque. Ils se laissaient pousser les ongles exprès pour que dans les corners, ils leur mettent des coups, des griffes, machin.
Ça, après, c'est un autre niveau.
Les crampons, messieurs.
Ça, c'est un autre niveau.
Moi, j'ai encore connu cette époque où tu pouvais jouer avec des crampons coniques et très pointus.
Moi, je vous parle pas des méchants. Je vous parle plutôt du malin. Je vous parle plutôt, par exemple, de ce que fait Gentile sur Maradona et Ardiles en 82. Pas envie de parler devant Tijelen qui met un contrat sur Tigana dans le PSV Bordeaux au milieu des années 80.
En revanche,
j'aime pas le mec, il y va pour casser. Je préfère le malin au méchant.
Pierre, et on accueille Mohamed.
Ces garçons là qui sont très malins sont souvent un petit peu méchants quand même. Ça va souvent ensemble.
Messieurs, on accueille Mohamed qui nous a appelé au 32-16 et qui est en direct avec nous dans l'after. Salut Mohamed.
Bonsoir messieurs, bonsoir. Salut, Nico, bonsoir Daniel, bonsoir Pierre.
Bonsoir.
Alors Mohamed, t'en penses quoi de la vie tranchée de Pierre et de ce sergent Ramos finalement, de cette armée du Real Madrid?
Alors je suis d'accord avec tout ce qu'a dit Pierre. En tout cas, voilà, il est un peu plus mesuré que ce que j'ai pu entendre un peu partout dans les médias et notamment Daniel hier. Et Daniel aussi aujourd'hui est un peu plus mesuré. Moi j'ai appelé à la base pour ça parce que voilà, j'étais surpris de ce que j'ai entendu hier soir.
Mais hier soir, je dis pareil.
Non,
mais Ramos, pour moi, qu'est-ce que tu veux que je dise de plus que ce que j'ai dit hier? C'est la même chose.
Hier, en gros, tu dis que c'est volontaire qu'il le blesse, qu'il le prive de Coupe du Monde. Voilà, t'as été véhément.
Non. Je dis, il y va pour lui faire mal. Et j'ai répété 1000 fois. Et je pense pas que dans sa tête, il a qu'il va le priver de Coupe du Monde. Mohamed, soyons sérieux.
Toi, tu dis qu'il va pour le faire mal, mais ça, c'est des duels que t'envoies 50 fois dans un match et le joueur n'est pas blessé. Là, c'est juste Mohamed Salah, il tombe mal et il se blesse.
Moi, je te dis pas qu'il sait qu'il va le blesser. Je te dis qu'il y va pour exactement ce qu'a dit Pierre. Il va lui montrer qu'il va avoir mal ce soir. C'est tout. C'est exactement ça. C'est la même chose qu'on a dit hier. Pareil.
Et ça, c'est des contacts qu'il y a plusieurs fois dans un match. Si vous vous souvenez bien, à la deuxième minute, Cristiano Ronaldo, il y a Lovren qui vient aussi premier contact à la deuxième minute, qui met un coup de coude dans d'autres Cristiano Ronaldo. Ça aussi, c'est pour lui dire.
Après le coup de coude que Ramos met à Karius, t'en penses quoi?
Non, ça c'est de l'anti-jeu clairement.
Ah voilà, ça c'est.
Tu sais quoi, l'action, je l'ai vue et revue.
Il va lui rentrer dans la gueule direct. Moi, franchement, si derrière il prend trois matchs, ça m'emmerde
pas. Mais tu sais quoi, je vais te dire, c'est le parfait symbole de ce qu'on parlait là du mec malin. Parce qu'au départ, c'est lui qui est poussé par Van Dijk. Et le fait qu'il soit poussé et qu'il se retrouve à côté, toi on te pousse, moi on me pousse comme ça, je sais pas si on a le réflexe de mettre le coude dans la gueule du gardien. Lui il l'a. Voilà. On le pousse parce qu'au départ il est bien poussé par Van Dijk.
Moi je lui tresse pas des louanges non plus.
Il met dans la pommette de votre après,
si pour ça il prend trois matchs, je suis content.
Ouais. Mais le problème c'est que lui il prend jamais. Il est trop malin pour ça.
Il en a pris parfois.
Comment son geste à Ramos a été perçu en Espagne justement?
Comme un fait de jeu normal. Enfin voilà, il y a pas. Alors bien sûr, du côté de Barcelone, bien entendu, on va trouver que c'est un peu too much, etc. Mais globalement, on trouve pas ça non plus incroyable. C'est-à-dire que comme on connaît bien Ramos, et moi je le connais depuis 10 ans et on s'entend bien, je l'aime beaucoup, je l'ai interviewé plein de fois. C'est un bon mec, c'est un vrai compétiteur sur le terrain. Mais moi je peux pas imaginer qu'il ait eu envie de faire mal et de casser un mec. Et en Espagne, on a le sentiment qu'il a, oui, il a fait son boulot défenseur en s'imposant, il marque son territoire, mais qu'il ait voulu volontairement blesser Mohamed Salah, ça personne n'y croit en Espagne.
Et Fred, moi je te dis que les mêmes Espagnols qui ne s'offusque pas là, si ça arrive par exemple pendant le mondial un joueur majeur de la sélection espagnole, tout le monde dira la même action, en Espagne ou ailleurs, c'est pas contre les Espagnols, mais en Espagne ou ailleurs, et ben là d'un seul coup tout le monde sera d'accord pour dire que c'est un geste terrible.
Quand il s'appelle le geste en finale de la Coupe du Monde, le coup de karaté du Hollandais sur Xabi Alonso.
Ils en ont été pas mal, les Néerlandais. Van Bommel.
C'est De Jong qui met.
Mais alors, mais c'est un.
Je crois que c'est le pied en avant dans la poitrine, quoi.
Ouais. Il y a même pas de carton, quoi. Voilà. Donc.
Non, mais en plus, Fred, historiquement, les Espagnols pouvaient, notamment au Real, à l'époque où c'était une équipe qui était pas belle à voir, Camacho et compagnie, qui savataient. Souvent, ils le faisaient grossièrement. Ils se faisaient avoir à ça, à ce jeu-là. Et même l'équipe nationale a été un peu naïve. On se rappelle quand même que les Espagnols avaient vécu comme une humiliation en 94 contre l'Italie.
Avec Luis Enrique
et Tassotti
qui lui met dans la casse le nez.
Bien sûr. Ils avaient vécu ça, on va vous apprendre comment il faut gagner. Et exactement. Les Espagnols avaient très mal vécu ça. Bon, bah, avec Ramos, ils ont appris, quoi.
On remercie Mohamed qui nous a appelé
sur la télé là, parce qu'il y a Cristiano Ronaldo qui va bientôt faire son entrée sur la pelouse. On est à Modric là, voir s'il est sifflé ou applaudi. Donc je suis ça.
Bah, tu nous diras.
Ouais, c'est pour ça que j'ai la télécommande. Hein, donc si vous entendez du bruit de télé, c'est parce que c'est la télécommande. Hein, voilà.
On remercie Mohamed qui nous a appelé au 32-16. Petit détour par Toulouse. Wilfried Templier, match entre le TFC et l'ACA, le barrage qui tourne en faveur des Toulousains. Ça se passe pas grand chose, hein, Wilfried. Hein.
Non, 0-0.
C'est bouclé, non?
La chanson du stadium revient. Hein. On se fait bip, voilà.
Ouais, mais on s'est dit dans l'émission.
voilà, 0-0.
Enfin, ils se sont fait chier toute l'année. Ils sont chiés au barrage et ils se font chier les prochaines.
Voilà, pas de bip chez Damien.
Merci pour moi.
Wilfried, t'attends quand même pas que le TFC te régale, non?
Ah, t'as toujours de l'espoir dans la vie.
Ah ouais? Moi, je sais pas, ça dépend quel entraîneur va venir.
Ah, mais voilà, aussi. Voilà une question qui est bonne. Ouais. Parce que Debève, apparemment, a terminé sa mission.
Finito, ouais.
Bah, je sais pas, ils vont bien prendre quelqu'un, non? Il a qui, Sadran, comme idée?
Pélissier, les gars.
On a vu.
Pélissier, il est à mort sur quand le veut, vraiment.
Il est là-bas.
Pélissier, lui, c'est son rêve.
Il est là-bas.
Ouais,
il est de Revel, le mec. Hein.
Ouais, ça pourrait le faire, mais j'ai lu quelque part, mais c'est pas notre info, hein, Oli Nicole.
Alors, il paraît que c'était si le club descendait en Ligue 2.
Ah,
c'est ce qu'on m'a dit.
D'accord.
Ah, bah, c'est bon alors.
C'est ce qu'on m'a dit, hein, je sais pas. Mais...
Ouf. voilà, donc Pélissier, oui, c'est sûr.
Si on s'en fait l'idée de Roland, il a envie de venir.
Mais pourquoi pas?
Bah, avoir Sadran, dis-lui.
Je suis pas sûr que ça colle les deux.
Merci Wilfried, t'hésites pas à intervenir dès qu'il se passe quelque chose, donc tu n'interviendras pas d'ici la 90e. Ça, on l'aura compris. Tiens, et sur le hashtag RMC Live, on attend vos garces préférées, tiens. Il y a pas mal de propositions depuis tout à l'heure. Comment as-tu pu oublier de citer ta garce préférée, Daniel Van Bommel? C'est ce qu'on a dit.
Non, mais si, je me semble l'avoir dit, ouais.
T'en as une, toi, de préférée de garce? Ravagnoli, du coup?
Non, mais Ravagnoli, c'est pas la même chose.
Déjà, je te laisse réfléchir.
Ouais, voilà.
Tu donnes la réponse. Et les vôtres aussi sur le hashtag RMC Live. Juste après ça.
RMC, le super football show, l'afterfoot, Nicolas Villas.
Avec Daniel Riolo, avec Pierre Ducrot, avec Fred Hermel également et avec vous sur le hashtag RMC Live. On vous a demandé d'envoyer sur le hashtag RMC Live vos garces préférées. Alors,
j'en ai un.
Vas-y.
Jean-Pierre Garce, 71 ans aujourd'hui, qui a joué à Béziers.
N'importe quoi. Franck Jurietti, nous dit Alexis. Georges Costa pour Anthony Gattuso, bien sûr, dit Mini Cooper. Ouais. Gattuso encore également pour Pascal Cyril qui nous
après,
dit
c'est dur de...
Roy Keane.
Ah oui, évidemment, Roy Keane, un maître.
Ah oui.
T'as Giraga qui nous dit Chiellini, Materazzi, Cannavaro, Thiago Motta. Ah, Thiago Motta, c'est vrai que c'était pas mal aussi.
Ouais.
Cyril Roll.
Non, ça c'est pas pareil, ça. Ça c'est juste des casseurs, ça n'a rien à voir. Lagarde, c'est un joueur très intelligent dans le jeu.
Quand on a cité Jurietti, j'allais dire c'est compliqué de comparer Jurietti à Ramos quand même. Pour moi.
Oui, non, voilà.
Bon, après, c'est dans l'état d'esprit.
Il faut pas confondre le découpeur et le mec qui a un rôle essentiel dans l'équipe parce que c'est un mec intelligent, qui a un poste clé.
Qui sait quand le faire.
Non, mélangeons pas tout.
Pep, tu le mets dans quoi?
Hein?
Pep qui?
Pep, le défenseur. Pepe, comme vous dites en Espagne.
Ah, si, je le mets évidemment dedans. Okay. Là, pour moi, la meilleure défense qu'a eu le Real, c'est quand il y avait Pepe et Ramos.
Sauf que tu sais quoi, alors Ramos.
Même si Varane est très très bon, mais quand il y avait les deux, là. Bon,
Ramos l'a déjà fait aussi sûrement, mais beaucoup moins que Pep, qui pouvait péter les plombs à des moments où il fallait pas le faire.
Pep, il contrôlait pas super bien. Pep, il contrôlait moyen. Alors que normalement, quand t'es vraiment bon dans ce domaine, tu contrôles.
Tu sais quand le faire et pas le faire.
Tu sais contrôler.
Tu sais qu'il a pris moins de cartons rouges en carrière que Zidane, Pep.
Bah, Gattuso, encore moins que les autres.
After Foot Expats, grand fidèle bien entendu. Il nous en a cité un qu'on a oublié qui a joué.
Tiens, j'en profite.
Quiz avant l'heure. Tiens, inscrivez-vous au 32-16 et jouez ce soir.
Juste un petit message, je vais vous répondre les mecs.
Pourquoi ?
Ouais, ils comprendront, t'inquiète pas. Je vais vous répondre.
Ah donc ils ont dit un truc pas sympa sur toi.
Non, au contraire, non, ils m'ont laissé un petit message en MP, j'ai oublié de répondre. Donc je vais leur répondre.
T'étais en mode règlement, en mode garde d'ailleurs.
Mais non, pas du tout.
Il y en a un qu'on a oublié, il est passé par la France, messieurs. Il a joué.
Il est quoi ?
Il est anglais. Facile.
Gascogne. Non, pas bien. Non, Jérôme, je suis absolument pas d'accord.
Ah
oui, non.
Tu mets dans quoi, toi?
Barton. Rien à voir. Lagarde, en plus, c'est un bon joueur. Barton, d'abord, c'était pas un bon joueur. Et c'était juste un nerveux. Il était capable de se faire sortir et tout. Si c'est pour prendre un carton rouge, c'est teubé.
Ouais.
Ça a rien à voir.
Ça, moi, j'ai déjà fait à ce moment-là.
Non, rien à voir.
Puisqu'on est dans les choses teubées.
On mélange le concept.
On va passer à la vie tranchée de Daniel Riolo.
On peut se livrer à une séance d'onanisme sacralisé toute la nuit sur Benzema, si t'as envie, on peut tous s'y mettre, on peut se mettre debout sur la table, le pantalon baissé, mais j'en ai pas envie.
Et la vie tranchée de Daniel Riolo, je l'avais oublié celui-là, qui concerne la méthode Zidane.
En plus, le pire, c'est que je crois que Fred était pas là ce soir-là, il a raté un grand moment, parce que lui, il l'aurait fait, se mettre debout sur la table sur Benzema.
Oh, Fredo ? Fred ?
Ah, il est plus là, Ronaldo. Parce qu'il écoute,
Alors toi, t'es sous le charme de la méthode Zidane.
Non, il s'agit pas d'être sous le charme.
Il s'agit d'essayer de... qui t'a marqué dans sa méthode.
Non, c'est d'essayer de comprendre. Parce qu'en fait, effectivement, Fred est plus là, mais comme chacun sait.
Simplement, Ronaldo a acclamé, applaudi, il a dit l'année prochaine, il sera là, donc.
Tout va bien. Tout est en train de
va être au pédalage, mon gars.
Tout est en train de
total, là.
Il est passé de la cinquième à la seconde de la direct.
Tiens, Fred, tu me feras, on en parlera du sujet Ronaldo?
Oui, absolument, c'est prévu.
On va, parce que j'ai entendu des choses absolument aberrantes aujourd'hui sur l'institution, sur le fait que machin, on oublie juste qu'on parle de Ronaldo malgré tout.
Bref, on en reparle.
Fred Hermel, qui comme chacun sait est père Hermel quand il s'agit de parler de Zidane, c'est lui qui dirige l'église. Il y avait l'église maradonienne. Si un jour il y a une église Zidane, celui qui aura les clés, c'est Fred Hermel. Je pense que ça le gênera pas en plus d'avoir les clés.
Donc, Padre. Surtout, je vais à la messe tous les dimanches.
Padre Hermel. Se plaignait, sans que je comprenne vraiment pourquoi, qu'on ne dise pas assez que Zidane est très fort ou que, employons le mot, on ne dise pas assez que c'est un génie. Alors, je sais pas s'il a raison, il me semble pas, je ne le crois pas, mais j'ai essayé de comprendre pourquoi. D'abord parce qu'effectivement, la méthode Zidane, pour l'instant, c'est pas encore totalement clair. D'abord parce que pour que ce soit clair, c'est toujours mieux quand le principal intéressé explique. Et tous les grands entraîneurs de l'histoire ou les grands champions ont parfois donné des interviews, tu sais, fleuves ou des livres ou des documentaires où ils parlent de leur métier, où ils expliquent, et ça permet, tu vois, bon, Guardiola, Sacchi, tous l'ont fait, Mourinho, des livres, tu vois, voilà, tout. Bon, lui, il est tout frais dans le métier, donc on va dire que c'est encore... Oui, mais c'est tout frais.
C'est pour ça, c'est rien.
Voilà, c'est tout frais, donc bon, on va
et
dire.
Et puis, il a peut-être moins envie que ceux que tu as cités de le faire en plus.
Ça, on ne sait pas. Peut-être.
En revanche, si dans 5 ans, on n'a pas quelque chose de fort et tout, ça m'emmerdera. Parce que moi, j'aime bien qu'on partage, qu'on échange, que les mecs disent les choses. S'il le fait pas, je trouve que ce serait dommage. Mais bon, après, ce sera son choix. Toujours est-il que là, on peut considérer qu'il est frais et que même s'il a gagné 3 Ligues des Champions, il a pas encore donné cet entretien où il va décortiquer, donner même les recettes. Pourquoi j'ai fait rentrer Asensio à tel moment? Pourquoi j'ai fait rentrer Bale? Comment je sens tel truc et tout? Tous les grands champions, grands entraîneurs l'ont fait. Donc, le jour où il le fera, déjà, ce sera bien parce qu'on a toujours envie de comprendre et d'apprendre des mecs de cette dimension-là. Donc comme ça, il ne l'a pas encore fait. J'ai essayé un petit peu de comprendre. Alors, d'abord, il y a ceux qui disent. Mais moi, je trouve pas que ce soit insultant ou que ça minore quoi que ce soit que le Real n'a pas de style. Moi, je vois pas en quoi c'est péjoratif. D'abord, on n'est pas obligé d'en avoir un marqué. C'est-à-dire comme ceux que élaboraient les architectes façon Rinus Michels, Lobanovski ou les héritiers Sacchi, Guardiola, tu sais, les dogmatiques.
Où tu veux t'imposer uniquement avec
voilà,
ton style,
moi,
tout le temps.
J'aime qu'il y ait différents styles. Ce qui m'emmerde un peu plus, c'est en revanche le style défensif par rapport à l'offensif, mais pas dans le ça n'a rien à voir avec ce que je suis en train de dire là.
Puisque le style un peu Mourinho,
c'est plutôt un style offensif en plus. Zidane, à partir du moment où il a des joueurs de talent, ce qu'il attend, c'est que ces joueurs de talent.
Est-ce que c'est pas plus du management alors du coup?
Voilà, j'y viens. Lui, il a envie que les mecs qui ont du talent puissent s'exprimer et fassent parler leur talent. C'est ce qu'on voit à chaque fois que le Real joue. Donc, si c'est pas une sorte d'architecte comme ça, et est-ce que c'est un problème? Non. Et puis, on n'est pas obligé de choisir entre les deux écoles. Il m'arrive pas. C'est vrai, moi, j'adore les grands théoriciens, mais j'ai adoré le Mourinho du début des années 2000 et je suis effectivement totalement là bouche bée devant ce que Zidane arrive à faire avec cette équipe. Donc, je trouve qu'on n'est pas obligé de choisir. C'est comme les Beatles et Rolling Stone ou ce genre de trucs-là. J'aime pas qu'on forcément ce genre de choses là. Juste parenthèse là, en revanche sur cette histoire dogmatique et tout, ceux qui ne les aiment pas et ceux qui tapent sur Guardiola, ouais, il a toujours eu des bonnes équipes donc c'est plus facile et tout ça. Je vais refermer la parenthèse en disant Zidane, il entraîne pas une équipe de branques. Oh, hein. C'est que des cadors, les
loin
mecs.
De là,
ouais. Donc voilà. Donc on évacue les deux comme ça. Et égalité.
Un peu comme Guardiola, il a aussi connu l'institution de l'intérieur. Il a été joueur, il a pris les jeunes, il les a fait monter.
Voilà. Donc finalement, puis ceux qui pensent que parce que t'as une grande équipe, tu vas forcément gagner.
Le chemin de Zidane et de Guardiola, c'est quand même l'équipe B en troisième division.
Exactement. Voilà.
Dire, c'est pas.
Donc et si Zidane a passé tous ses diplômes et a donc fait la théorie, l'analyse et tout ça, je crois que son style, en fait, qui effectivement, et Fred nous l'a souvent raconté, c'est construit à la fréquentation des grands entraîneurs qu'il a connus,
Italiens,
et notamment les Italiens,
Ancelotti.
Cette intuition, je crois que c'est ce qui caractérise son style. Il a ce qu'on appelle l'intelligence intuitive. Il devine, il anticipe, il comprend. Le foot comme peu le comprennent, parce que d'abord comme joueur,
il le sentait,
avait un feeling, un instinct formidable, et c'est comme ça qu'il travaille aujourd'hui. Et effectivement, peut-être sans se perdre dans des analyses ou des longues réflexions. D'ailleurs, Bettoni, qui est son fidèle adjoint, l'a dit, et quand tu lis ses explications, tu dis, ah oui, c'est ça le foot, parce que c'est super facile finalement. Il dit, il excelle dans le management. Ça, c'est pas forcément super facile. Encore faut-il être capable d'exceller dans
surtout
le management
dans comme ça.
Et dans le rapport humain. Et il dit,
surtout au moment où il arrive. Hein.
Et après, il leur dit de prendre du plaisir. Ah, vas-y, ça c'est la phrase la plus bateau du monde. Tous les entraîneurs disent ça.
Non mais attends, je vais te dire quelque chose, Daniel. Ouais. Simplement, c'est la fin de la phrase. Parce que moi, à chaque fois que j'ai parlé de ça avec Zizou, il me dit, moi quand j'étais joueur, un entraîneur qui faisait des théories pendant 40 minutes, je l'écoutais plus quoi.
Voilà.
Moi, un footballeur, dans un message, il doit y avoir maximum deux idées et on termine par maintenant profite.
Et maximum, en tout cas, il a compris que ce rapport humain.
Comment parler aux joueurs?
Et ça peut être vrai pour d'autres personnes que les footballeurs, je précise.
Donc son style, je dirais, est quasiment minimaliste, sans que là encore ce soit péjoratif, puisque même en art il y a du minimalisme et ça a donné des œuvres très belles.
Il va à l'essentiel.
Voilà, c'est simple, efficace. Il a des tauliers. Ça, je pense que c'est clairement un héritage de lui, joueur. Dans ses grandes aventures, il y avait 3-4 tauliers dans l'équipe et des très bons joueurs autour.
Je te les donne. Ramos,
Marcelo, Modric,
Cristiano Ronaldo.
Voilà. Des joueurs très forts autour qui répondent et qui sont une hiérarchie claire parce que mine de rien, c'est quasiment toujours la même équipe avec Vasquez, Asensio, Bale sur le banc, Nacho, mais il n'y a pas de... Il n'y a pas d'embrouille sur la hiérarchie. Non. Les choses sont claires et le rapport de confiance, il est extraordinaire. Donc, il n'y a pas de conflit. Tout est géré de façon apaisée. Et ça lui permet, en plus, au moment où il prend l'équipe, une équipe qui avait déjà gagné ensemble avec Ancelotti et lui comme adjoint. Donc, il les connaît parfaitement. Il continue ce rapport de confiance. Son passé l'aide à faire comprendre aux joueurs quelle est la bonne direction. Et il a entretenu ce niveau très haut d'exigence en faisant quoi? En renforçant ce rapport de confiance extraordinaire, en ne renouvelant pas l'équipe. En disant, les gars, c'est vous, vous êtes forts, vous avez déjà gagné, on continuera à gagner ensemble. Et ça, cette confiance qu'il a donnée, c'est ce qui est le plus dur. Cet entretien du niveau d'excellence et d'exigence, en ayant gardé, ça je pense que c'est le premier choix très très fort l'été dernier, je pense que c'est...
Et au mois de janvier, quand les dirigeants vous imposaient en janvier, quand les dirigeants...
Pour conclure sur ce qu'est Zidane et son style, il est... Ok, déjà dans l'histoire, parce qu'il a gagné 3 Ligues des Champions de suite. Mais est-ce que ça va lui suffire et est-ce qu'il faudra qu'il en fasse plus? Moi, je pense que oui. Et je sais pas, après, est-ce qu'il aura envie d'être un Ferguson à Manchester United? J'en sais rien.
Au Real, c'est pas possible.
Ça va le regarder. Mais je pense que c'est quand même un homme de défi. Et qu'évidemment, aussi con que ça puisse paraître, parce que quand on a gagné 3, normalement, on devrait plus trop t'emmerder. Ben, je pense qu'à un moment, on lui dira... Tu veux pas aller voir ailleurs pour voir si ça marche?
Bah Fredo, c'est ce que tu dis. Pourquoi tu dis que c'est impossible, toi?
Qu'il fasse parce que le Real Madrid, tu peux pas rester 30 ans au Real Madrid.
Ça peut pas être le premier à faire ça?
Ça peut peut-être.
Non, mais c'est impossible. Non, c'est trop usant. C'est trop usant.
Mais lui, il a l'air quand même très décontracté. Il est pas usé. Il le vit super bien. Il est dans un confort que personne n'a jamais eu.
Oublie pas une chose qu'il y a au Real et qui n'a pas à Manchester. À Manchester United, t'as un propriétaire. Qui, le jour où il veut se barrer, il fait ce qu'il veut. Au Real, t'as des présidents qui arrivent avec un programme, on en parlait tout à l'heure.
Avec des entraîneurs, des machins. Sur une motion de censure au Real. Voilà. Et il y a des élections tous les 4 ans.
Non, mais effectivement, ça joue. Effectivement, ce qui sera un problème, c'est quand ça gagne plus. Mais le problème, c'est que
il partira, lui.
Il a quand même du crédit, hein.
Je te dis, Zidane, simplement, parce que Zidane perd contre le PSG, il est pas viré.
Non, oui, il y a un problème.
Mais là, aujourd'hui, il s'en va.
Oui, non, mais là, je suis d'accord. Lui-même. Effectivement, je suis d'accord qu'à ce moment-là, ça peut être chaud. Mais moi, je parlais pas tant de ça. Je parlais pas de ce qui sera de l'extérieur par rapport à lui. Moi, je parle de lui-même en tant qu'homme. Exactement comme, tu vois, Mourinho, à un moment, était braqué par l'idée de « je veux être champion dans tous les pays ». Ou Guardiola, je vais aller en Allemagne, je vais aller à City. Et je partirai pas de City tant que je suis pas champion d'Angleterre. Est-ce que Zidane, à un moment, se dira, et ça, je n'en sais rien. Moi, je fais le pari que oui.
Je l'imagine pas justement dans cet état d'esprit, moi, justement.
Mais je sais pas. Tiens. Moi, je fais juste le pari qu'à un moment, il se dira, j'ai envie d'aller dans un autre championnat pour voir si je peux gagner.
La réponse de Fred.
Est-ce que ce sera pas ça? Il dira, je prends l'équipe nationale.
Il l'aurait fait en tant que joueur déjà.
On sera avec David supporter du Real, qui nous a appelé au 32-16. On vous attend aussi sur le hashtag RMC Live. On parle de Zidane, de la méthode Zidane. Et on vous attend pour la suite de l'after dans quelques instants. On ira du côté de Toulouse également retrouver Wilfried Templier où il y a le barrage entre Toulouse et Ajaccio. À tout de suite.
RMC, le super football show, l'afterfoot, Nicolas Villas.
Avec Daniel Riolo, avec Pierre Ducrot, avec vous au 32-16 et sur le hashtag RMC Live, bien entendu, on va aller faire un petit tour du côté de Toulouse où il y a le barrage pour le maintien ou la montée en Ligue 1 entre le TFC et l'AC Ajaccio. Wilfried Templier, toujours 0-0.
Quelle tristesse. 0-0, 88e minute, depuis 10 minutes, depuis 77-78, les gens quittent le stadium. C'est pour vous dire, le spectacle, là, il fait froid sous la pluie, les gens se disent, c'est bon, là, ça suffit maintenant, mais bon, l'essentiel pour Toulouse, c'est ce maintien en Ligue 1 avec le résultat du match aller 3-0, 0-0 retour. C'est vrai que Lorient s'était fait surprendre l'année dernière par 3 dans ce barrage et comme vous l'avez dit hein, depuis le début, peut-être que l'essentiel, attention, Corentin Jean qui récupère le ballon dans l'axe, la frappe est contrée, ça va en corner, peut-être, enfin pas peut-être, l'essentiel évidemment, c'est les 3 points, mais c'est surtout le maintien pour le Toulouse Football Club. 2 minutes à jouer dans le temps réglementaire, 0-0 entre Toulouse et Ajaccio.
Merci beaucoup Wilfried. Fred Hermel également est avec nous. Fredo, je crois que Cristiano s'est exprimé.
Oui, il s'est exprimé. Bon, vraiment, tout ça pour ça, on va se dire. Il vient de prendre la parole. Et là, vous avez tout le stade qui chante « Cristiano reste là, reste ici, kadate, kadate ». Et tous les joueurs sur le podium qui l'entourent, qui l'embrassent. Il avait besoin qu'on lui montre qu'on l'aime. Eh ben, on lui a montré qu'on l'aimait et puis il va rester.
Tout ça pour ça, donc vraiment.
Tout ça pour ça.
On va revenir hein, sur le cas Ronaldo dans quelques instants. Juste, on retourne du côté de Toulouse. But, Wilfried, tu vois, tu te plantes.
Jimmy Durmaz, au bout du bout, 87e, perte de balle de la défense, une mine du gauche sous la barre de Rifi Mananda, et voilà, 1-0 pour le Toulouse Football Club, et bien voilà, ceux qui sont partis du stadium, ils vont regretter.
Eh oui, fallait pas.
1-0 pour Toulouse, qui va rester en Ligue 1,
c'était
et
Atletico
va rester en Ligue 2.
Voilà, on était en plein avis tranché de Daniel qui revenait sur la méthode Zidane et notamment l'intuition et le management. On va accueillir David, supporter du Real, qui nous a appelé au 32-16. Salut David!
Salut Nicolas, salut tout le monde.
Bienvenue dans l'After, David. Alors, t'en penses quoi de l'avis de Daniel?
Ah bah moi je suis ravi de ce que je viens d'entendre parce que je souscris totalement à ce que vient de dire Daniel. Daniel, tu disais dans ton avis que tu espérais peut-être qu'un jour Zidane, dans un entretien fleuve, livre sa méthode. Mais je pense que cet entretien, tu ne l'auras jamais en fait, Daniel. Si un jour tu l'as, je pense qu'il te décevra forcément, puisque je pense que la méthode de Zidane est avant tout d'ordre instinctif, intuitif en fait. Et je pense pas que ce soit quelque chose qui soit qu'il puisse, disons, verbaliser.
Non, je suis pas d'accord avec toi.
Il y a forcément beaucoup de travail.
Alors,
il pourra quand même expliquer les choses.
Mais en fait, si vous me permettez un parallèle, avec le cinéma, je comparerais. Par exemple, à Steven Spielberg. Quand vous lisez des biographies de Steven Spielberg, vous vous rendez compte que déjà, à 5-6 ans, ce type dans ses films amateurs qu'il faisait, avait déjà un sens aigu du découpage, du montage, des raccords, de la réalisation. Et à côté de ça, c'était un gamin, et d'ailleurs il l'est toujours, qui est dyslexique. Et toutes ses interviews sont d'une grande platitude. Et en fait, il y a un décalage chez Spielberg.
Mais Zidane n'est pas dyslexique.
Il y a un décalage. Il y a un décalage chez Spielberg entre l'éclat de sa mise en scène, le langage de l'image, et son langage à lui en interview, qui est complètement plat, en fait. C'est un peu la même chose que les frères Cohen. Et finalement, Zidane, et c'est pas un défaut que je soulève, justement, c'est son grand mérite. Zidane, c'est un petit peu ça. J'ai l'impression que tout ce qu'il fait, c'est un peu d'ordre instinctif, intuitif, humainement. Et finalement, d'un point de vue tactique, j'ai l'impression que ce Real-là, est autant le fruit de Zidane que des entraîneurs qui l'ont précédé. Par exemple, l'héritage de Benitez aujourd'hui, c'est Casemiro.
Alors je vais révéler un petit secret. J'espère que Jésus va pas vouloir. J'ai eu cette discussion avec lui il y a une semaine dans son bureau. Zidane a conservé.
Pas sûr de pouvoir le dire, le dis pas.
Mais pour expliquer, parce que c'est intéressant. Moi, j'aime beaucoup la question qui est posée.
Vas-y.
Zidane, et tout à l'heure, on en parlait avec Lionel Charbonnier. Derrière tout le talent qu'il avait quand il était joueur, l'improvisation, il y avait un boulot de malade.
Oui, bien sûr.
Et là, aujourd'hui, il y a un boulot de malade de Zidane. Et moi, je lui ai posé la question justement par rapport à son instinct.
Mais lui, laisse-moi juste dire une phrase, parce que si je la dis après ce que tu vas dire, on va penser que je suis d'accord avec toi. Moi, je pense que là, ce qu'on est en train de faire, c'est on inverse le rapport entre le travail et le côté intuitif extraordinaire de Zidane. C'est pas du 80-20, c'est du 20-80, quoi.
On se débarrasse de ça, c'est fini à Toulouse entre le TFC et le CR.
Tu parlais pas de moi quand même.
Non.
1-0 pour Toulouse. But de Durmaz à 88e. Toulouse restera en Ligue 1 la saison prochaine et Ajaccio repartira en Ligue 2.
Salut Wilfried.
Bonne soirée.
Bravo pour le goal.
Et il y aura pas de bouchons, ils sont déjà tous partis, t'inquiète pas.
Et pour toi Fred, une dédicace.
Merci Wilfried. Merci. Bonne soirée Wilfried Templier. Vas-y Fred du coup.
Alors en fait, je lui ai posé cette question là lors de nos discussions qu'on a parce que moi j'aime bien parler avec les entraîneurs. Je l'ai beaucoup fait avec Lionel Ancelotti, je le fais avec Zidane aussi, pour essayer de comprendre comment il fonctionne. Zidane est un entraîneur italien qui planifie d'une manière, mais rien n'est laissé au hasard. Mais c'est un truc de malade, quoi. Et s'il s'entourait de gens comme Bettoni, qui est quelqu'un qui a beaucoup travaillé en Italie aussi, sa seule vraie exigence comme entraîneur, c'est Antonio Pintus, c'est pas par hasard. Si ses maîtres sont Ancelotti, Lippi, etc., c'est pas un hasard. Donc il planifie tout. Tout est planifié, tout est calculé. En Espagne, il aurait pu avoir son diplôme d'entraîneur en 6 mois. Il a choisi la France parce qu'en France, c'est 3 ans. Parce qu'il faut beaucoup travailler, parce qu'il faut beaucoup théoriser. Il a tout le bagage de l'entraîneur. Il prépare tout. il a 90%, 95% de ce qu'il fait, c'est du travail, c'est de l'analyse tactique, c'est tout ça. Mais il se laisse 5% au feeling. Et dans ce cas-là, il m'a expliqué il y a 10 jours. Il dit, voilà, il y a des moments où je dois faire des changements. Ça répond à bien entendu, une accumulation de données que j'ai, des rapports de des mecs qui travaillent pour lui, du souvenir du match précédent, etc. Et il me dit, mais à un moment, comme entraîneur, j'ai aussi des sensations comme quand j'étais comme quand j'étais joueur. Et dans ce cas-là, il en parle à David Bettoni, ils en discutent et de là ils prennent la décision. Mais il y a encore de l'instinctif chez Zidane, mais c'est 5 à 10% de ses décisions. Le reste, c'est comme tous les entraîneurs.
Mais ça peut pas être autrement.
Ça peut pas être autrement. Parce que il y a des données sur l'état de forme des joueurs. Enfin, je pense que les gens n'ont pas conscience.
Personne ne peut douter de ça.
Non, mais parce que notre auditeur nous disait, c'est que l'instinctif.
Non, mais vous n'avez pas compris ce qu'a dit.
David
disait que t'aurais jamais, par exemple, l'exemple de l'interview avec sa méthode, que tu n'en aurais jamais une parce qu'il n'y a pas vraiment de méthode, c'est que à l'instinctif.
Il a dit que tu n'aurais pas, parce que probablement, exactement comme Spielberg, même si j'ai quand même lu des interviews de Spielberg, qui étaient, peut-être il ne mettra pas les mots.
Mais s'il les met, Daniel. Il les met. Évidemment, il les a mis il y a 10 jours. C'est du off, mais les amis.
Parce que moi, j'ai besoin du questionnement. C'est ça la question.
Oui, mais si un jour il le fera. Un jour il le fera, mais il veut pas le faire aujourd'hui parce qu'il considère qu'il est encore en apprentissage.
Zidane aujourd'hui. Il le ferait pas. Moi, j'espère qu'il le fera.
Mais bien sûr qu'il le fera. Mais Zidane aujourd'hui.
Tous l'ont fait, quoi. Donc.
Zidane aujourd'hui considère qu'il est encore en train d'apprendre, qu'il est meilleur entraîneur qu'il y a un an, il était meilleur qu'il y a deux ans, mais que aujourd'hui il n'a connu qu'un club, il n'a connu que 2 ans et demi en première division. Et donc Zidane apprend encore des choses. Et il a bien entendu qu'il a cette capacité à théoriser des choses. Déjà quand il était joueur.
David, tu voulais clarifier ta pensée.
Oui, bien sûr. Faut bien qu'on s'entende. Attendez, mon propos, il ne s'agissait absolument pas de dire que Zidane ne travaillait pas et que c'était une espèce de génie qui débarquait sur le terrain d'entraînement comme ça, qui avait des fulgurances et que voilà. Enfin, c'était pas du tout mon propos. Je disais simplement que ce que je voulais dire, c'est que finalement la touche finale dans sa méthode qui permettait au Real de toucher au sublime, de remporter 3 Ligues des Champions, la 4e en 5 ans, parce qu'on l'oublie aussi la 4e souvent, en 5 ans, je pense que c'est d'ordre instinctif. Et finalement, la verbaliser, la formuler, je ne sais pas si c'est possible. Et
en fait, tu veux dire qu'il y a des choses qu'il n'arrivera pas à expliquer.
Mais de toute façon, il a quand même toujours eu du mal à verbaliser. Publiquement, Fred.
Publiquement, d'accord. Publiquement.
Mais
non,
mais excuse-moi, mais
pourquoi c'est comme ça que tu retransmets les idées?
Les idées, c'est pas publiquement que tu les transmets.
Ah bah ça aussi, c'est ce que disait Daniel.
Pour nous, mais pas pour ses joueurs.
Mais tous les plus grands champions,
ils ont écrit des livres,
de Jordan à Federer, dans tout le foot et tout, à un moment. On parlait,
oui, c'est ce que disait Daniel,
de ce qu'ils ressentaient, de ce qu'ils ont fait et tout.
À un moment, mais pas forcément dans l'action.
Zidane,
mais pas au
joueur,
bout de 2 ans et demi.
Même Zidane joueur, ça a été compliqué.
Oui.
Il n'y a pas eu de vrai entretien.
T'en as qu'ils font mieux que d'autres.
De ça, c'est un peu frustrant.
Et ce qui n'a pas empêché qu'il soit pendant 15 ans un extraordinaire joueur.
Mais bien sûr.
C'est là que je veux en venir. C'est qu'il va peut-être être un entraîneur extraordinaire pendant 20 ans, sans jamais publiquement.
C'est ce que disait Daniel.
Et c'est pour ça qu'il le fera, parce que parce qu'il exprime mal ses idées publiquement, ou en tout cas pas de
c'est qu'il en a pas.
Il en a pas, ou il a pas de méthode.
Non, parce que ça, tous ceux qui le connaissent m'ont toujours dit que même dans le vestiaire,
bien sûr, il parlait.
C'est Dugas qui me l'avait dit il y a très longtemps quand on avait fait un livre ensemble, et ça date, c'était il y a 10 ans. Il m'avait dit, contrairement à ce que vous pensez, effectivement, quand la lumière s'allume d'une caméra, il peut bloquer et ne plus verbaliser. En revanche, quand il est en off ou quand il est dans le vestiaire entre joueurs,
c'est un autre
dans la parole, dans la façon de transmettre un truc, et parfois même uniquement le regard lui suffit à faire passer beaucoup de choses, même quand il parle pas. Mais il parle, c'est pas du tout le taiseux
j'ai pas de doute là-dessus.
Ce que j'aimerais, parce que tu peux pas obliger quelqu'un, c'est juste que tous les plus grands sportifs, tous les plus grands entraîneurs l'ont fait. J'espère qu'on ne passera pas à côté de ça. C'est tout. Après,
Personne il n'obligera. En a fait un après sa carrière de joueur.
Mais pas trop. Non, j'ai pas souvenir d'avoir non, eu un truc fort. Alors que tous les grands joueurs.
Je suis pas persuadé que lui ça l'intéresse.
Et si Cruyff ça l'intéresse pas.
Après c'est différent.
Beckenbauer.
Après
parlé,
c'est différent.
Tout le monde l'a fait.
C'est différent. Joueur raconter ton parcours et après théoriser ton tes idées d'entraîneur. C'est quand même pas la même chose.
Non mais je vais te dire, il va pouvoir théoriser ce qu'il a été comme joueur parce qu'il est devenu entraîneur.
Oui, certainement. Peut-être qu'il expliquera certaines choses, effectivement.
Et voilà,
moi, j'en avais parlé. J'avais eu la chance, moi, d'en parler avec Jean-Pierre Caracchio, qui est le fondateur du CDES à Limoges. Mmh. Et lui disait justement que c'était quelqu'un qui était très réfléchi.
Bien sûr.
Effectivement, contrairement à ce que nous, médias, on pouvait percevoir de lui à travers justement la communication, c'est dire à quel point aujourd'hui la com, c'est important également. On n'avait pas la vraie image de ce qu'il était. Lui disait que c'était
au contraire.
Et ça rejoint ce que disait Fredo tout à l'heure. Il disait que c'était un gros besogneux, hein. C'est-à-dire, il a eu l'humilité de s'inscrire au CDES, de partir d'une feuille blanche et de dire, apprenez-moi ce qu'est le management, apprenez-moi quelles sont les méthodes. Et il a appris, il a bûché, et il a bien travaillé le mec.
Et puis il est en troisième division, hein, avec des gamins. Hein.
La Castille, oui. Merci Fredo, faut que tu nous laisses mon Fredo.
Et merci David.
Ouais, oui.
Et merci David.
Mais oui, puis j'ai une vie en dehors de vous. Hein, c'est...
j'ai compris, j'ai une vie en
non,
dehors
mais
de
c'était
vous.
Très belle discussion ce soir, et je vous recommande l'article de Daniel Riolo, aujourd'hui sur Zidane, sur le site RMC Sport.
C'est une émission sur parce le de l'amour, c'est la fête des mères.
Il m'appelle le père Hermel, c'est pas pour ça. C'est parce qu'il a beaucoup de recul, et je vais terminer là-dessus. Vous savez, je termine là-dessus, et on comprend entre les lignes, ou même en lisant les lignes, dans ce que dit Daniel, Zidane aujourd'hui n'est pas forcément reconnu à sa juste valeur parce que il ne sait pas mettre en scène ce qu'il est comme entraîneur, contrairement à d'autres.
C'est peut-être pas plus mal.
Merci Fredo, en tout cas. Bonne nuit Fredo. On remercie David également qui nous a appelé au 32-16. Et puis dans quelques instants, tiens, on vous attendra au 32-16 sur le hashtag RMC Live. On viendra un petit peu également sur les news sur Cristiano Ronaldo, puisqu'il y en a eu de la part de Fred Hermel également. Je crois que tu voulais t'exprimer là-dessus, toi Daniel.
Ouais.
Et ben on le fait dans quelques instants. L'after vous attend. Avec Pierre Ducrot, avec Daniel Riolo, on est avec Fred Hermel. On vous rappelle que Toulouse, eh bien, restera en Ligue 1 la saison prochaine, 0-0 lors du barrage retour qui vient de s'achever du côté du Stadium face à l'ACA. On vous rappelle 1-0, pardon, c'est vrai qu'ils ont marqué Dourmaz en fin de match. Merci Jérôme Thomas. Et puis Grenoble sera en Ligue de la saison prochaine. Là, il y a bien eu 0-0 lors du barrage retour. Grenoble qui s'était imposé 2-1 face à Bourg lors du match aller. A tout de suite pour la suite de l'after.
RMC, le super football show, l'after foot.